RCF.
Tu vas où habiller comme ça?
J'ai un rendez-vous ce soir.
Mais c'est génial!
Que le spectacle commence.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui à la Saint-Médard, culture et détente, tu associeras sans retard. Alors dans le bac aujourd'hui, il n'y a pas que les bulbes de printemps qu'on peut préparer, il y a aussi ceux pour l'automne, mais quel type de fleurs ça concerne et comment bien s'y prendre? Les conseils sans se planter de Pascal Aspe dans leur rendez-vous jardin du jeudi. Et puis des agents immobiliers qui vont tout faire pour enthousiasmer leurs acheteurs potentiels, c'est Waouh, la nouvelle comédie drôle et décalée de Bruno Podalides, le coup de cœur ciné cette semaine de Valérie de Marnac. Waouh. C'est aussi le cri qu'on peut pousser vu le parcours de notre invité, passé de la scène rock à la scène de théâtre après avoir voyagé dans 67 pays, et waouh également après avoir vu la pièce reprise actuellement à la Comédie Odéon de Lyon. Bonjour Thierry Auzerre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le directeur artistique de la compagnie des Asphodèles, aujourd'hui Asphodèles du Colibri, que vous avez créé en 92. Vous êtes aussi un homme à prendre au mot, président directeur de la Caravane des 10 mots et à l'initiative de la Biennale des Langues, dont on attend la prochaine édition pour 2024. On en parlera tout à l'heure. Et votre actualité du moment, c'est donc Le Quatrième Mur, cette adaptation au théâtre du fameux roman éponyme de Serge Chalandon. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mur? Vous allez nous le dire. Tout doux en scène avec Thierry Auzerre. C'est parti.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Il y a la guerre là-bas, Georges, la guerre, tu te souviens? Il ne s'agit pas de réciter trois répliques de théâtre dans une maison de jeunes, mais de s'élever contre une guerre générale. C'est impensable, Georges, impossible. Grotesque. Aller dans un pays de morts avec un nez de clown.
Voilà, tu vas quand même pas y aller. L'inquiétude d'Aurore quand elle apprend que son mari, Georges, metteur en scène, va partir et monter l'Antigone de Jean Anouilh dans un Liban déchiré par la guerre, en faisant le pari de rassembler sur scène des comédiens issus de camps opposés. C'est le point de départ de cette pièce qui est particulièrement intense. Mais ce quatrième mur, Thierry Auzerre, en fait, d'où vient le titre? Qu'est-ce que ça désigne, le quatrième mur?
Alors, le quatrième mur au théâtre, c'est le public.
Oui.
Voilà, donc du coup, dans le roman de Sorge, le quatrième mur, ben, c'est le chaos. Je trouve le titre de ce roman remarquable. Quand on est un homme de théâtre et quand on ouvre la première page, ben voilà, on y rentre pleinement dedans, c'est fabuleux.
On va revenir sur cette création qui a été primée d'ailleurs à Avignon en 2016, mais d'abord un petit retour sur votre parcours, Thierry Auzerre. Vous êtes né à Lyon, dans le 3e arrondissement. Ce qui est amusant à souligner, c'est que vous avez ouvert en 99, à quelques centaines de mètres de là, votre lieu de création et d'accueil pour d'autres compagnies. Je ne sais pas si c'est le fruit du hasard, est-ce qu'on peut parler de hasard?
Oui.
Ou de retour aux sources.
Et bon, écoutez, non, là, c'était franchement du hasard, en fait. On jouait à l'époque, c'était en janvier 99, on jouait au Théâtre des Célestins pendant un mois, L'Amour des Trois Oranges, et j'avais du temps dans la journée, je me baladais dans Lyon, je voulais absolument ouvrir un îlot artistique urbain, et je tombe devant ce bâtiment industriel, voilà, en friche. Qui attendait une fameuse ZAC, une zone d'aménagement concertée. Et je suis tombé en amour devant cette façade. Je suis rentré dans ce lieu. Ça a été une magie. Et donc, est-ce qu'il y a du hasard? Je ne sais pas.
En tout cas, c'est un lieu que vous avez lancé. Alors, le théâtre, c'est quelque chose qui vous a tout de suite attiré dès l'enfance ou c'est venu plus tard?
Je pense que j'ai été touché au berceau. Mon papa travaillait dans le cinéma. Et ma mère était institutrice, directrice d'école. Et du coup, j'ai été balancé entre le savoir, la connaissance, et en même temps le rêve, l'utopie, le jeu. Donc oui, dès le départ, j'ai trouvé ça fantastique. Quand j'étais enfant, j'avais des réflecteurs.
Mais le théâtre pour jouer sur scène ou pour être metteur en scène, raconter des histoires
Écoutez, je crois que si il m'arrive quelque chose demain, ça sera de remonter sur scène. Je trouve ça fantastique, le contact avec le public, le fait de, en plus avec la vie qu'on a derrière soi, je crois qu'on pèse pas les mots de la même façon. Le jeu sur scène s'amplifie par un parcours, Bon, il y a des très jeunes comédiens qui arrivent à le faire, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment revenir sur scène. Oui.
Revenir sur scène. Alors, après avoir fait le Conservatoire d'art dramatique de Lyon, c'est d'abord vers la musique, hein, que vous allez vous tourner en tant qu'auteur, compositeur, interprète pendant une quinzaine d'années, plus de 500 concerts, différents albums, enregistrements, en groupe et en solo, avant de revenir au théâtre et de monter le 18 juin, donc la compagnie des Asphodèles à Lyon. On expliquera alors tout à l'heure pourquoi ce nom, mais qu'est-ce que vous aviez en tête en créant cette compagnie? C'était quoi la démarche, la volonté artistique derrière? Parce que derrière chaque compagnie, il y a toujours un objectif, une vocation.
Alors c'est une rencontre. Moi, je fais du rock et puis l'amour m'amène à rencontrer une personne qui travaille dans la commedia dell'arte. Je suis tombé en amour devant cette discipline artistique, cette irrévérence de la comédia. Et en 92, c'est encore le hasard, c'est une rencontre à Lyon qui fait que on avait vraiment de beaux projets ensemble. On s'est dit il faut une structure. On avait, il faut le dire, à l'époque, déjà des spectacles sans structure. Donc du coup, c'était un peu n'importe quoi. Et je dis, il faut qu'on crée quelque chose. Et voilà, on a créé cette compagnie le 18 juin. Enfin, si vous regardez dans mon parcours, toutes les dates...
Ça me rappelle un certain appel.
Toutes les dates, j'ai fait...
C'est vraiment très symbolique.
Ça a été très compliqué de passer au journal officiel du 18 juin. Pour moi, c'est très important, tous ces petits hasards.
Mais il y avait quoi derrière cette envie de créer cette compagnie? C'était quoi l'objectif? Est-ce qu'on peut parler de comédie dell'arte? Est-ce qu'on peut parler de peut-être de décloisonner les genres?
C'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire que la discipline artistique, la comédie dell'arte, m'a amené beaucoup de réflexions. Cette discipline théâtrale, c'est la première fois que des comédiens deviennent professionnels. La comédie dell'arte amène l'élément féminin sur scène. Enfin voilà.
On rappelle, c'est né en Italie au XVIe siècle.
Voilà, à Padoue, tout à fait. Et donc cette diversité de jeux que j'ai eu la chance de toucher, de palper à travers les tournées des Scalzacani, cette fameuse compagnie qu'avait créé Carlo Bozzo à Paris, je me suis dit il faut la faire vivre sur scène, cette diversité. Il faut la faire ressentir par le public, et donc du coup les Asphodèles, un chant.
Alors pour revenir au quatrième mur, cette création elle n'est pas arrivée par hasard, c'est le deuxième volet d'un triptyque baptisé Les Irrévérencieux, dont le premier volet a été donné en 2012, vous voyez que j'ai bien révisé mes fiches, en partant d'une réflexion justement sur cette commedia dell'arte du XVIe siècle.
Je pense que la réponse à la question qu'est-ce que c'est la commedia dell'arte aujourd'hui, ça continue pour moi à rester un théâtre de comédiens. Donc ce sont les comédiens, ce sont les interprètes qui vont apporter la réponse.
Pas sur moi, Truffin. Tu es vraiment sûr qu'il n'y a personne autour? Je peux enlever mon déguisement.
Oui, je vous dis, n'ayez crainte.
Bien.
Oh, pas beau!
Attention! Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
C'est un mec!
Voilà, du hip-hop, de la danse, des rythmes de human beatbox produits par la bouche, et puis des comédiens avec des masques de la commedia dell'arte italienne. Explique-nous quand même pourquoi ce joyeux mélange. Thierry Hauser.
Mais c'est toute ma vie, ça. C'est des rencontres, en fait. Un soir au Festival d'Avignon, j'étais autour d'un verre avec Mourad Merzouki. Et puis nous discutions
chorégraphe, et
très connu.
D'ailleurs, qu'on avait reçu à votre place il n'y a pas si longtemps un spectacle.
Un énorme personnage de la création contemporaine. Alors donc du coup, on parle de tout ça. Et puis il me dit la comédia. J'ai dit oui, la comédia dell'arte. En fait, c'est une discipline urbaine du XVIe siècle. Ça le fait rire. Et puis j'ai dit, on jouait dans la rue, sur des strades. Et je lui dis, on demande toujours à travers nos spectacles... Et dans la culture, de parler de diversité, de mélange, il n'y a pas de souci, il faut montrer ça. Mais je lui dis, dans le monde de l'art, en fait, on ne se mélange pas beaucoup. En fait, on est dans des silos plutôt. Hein. Il y a l'art contemporain, il y a le théâtre contemporain, il y a le théâtre classique, etc. Et je lui dis, pourquoi pas? Et si on essayait de se rencontrer? Alors, il me dit, alors je lui dis, on prend la culture hip-hop et puis on fait rencontrer la comédia dell'arte et la culture hip-hop, et puis on essaie de créer quelque chose ensemble.
On se coule tout, puis on voit ce que ça donne.
C'est ça, c'est un peu ça, mais c'est vrai, c'est un peu la vie, quoi. Donc du coup, j'ai rencontré Nicolas Genzac et donc Tico, de son nom de scène, qui est champion du monde de big box. J'ai découvert cette discipline extraordinaire, et puis l'idée a été de prendre ces trois disciplines, de travailler des impros sur scène, ce qui a donné le premier volet, les irrévérencieux.
Pourquoi irrévérencieux ?
Parce que je trouve que l'irrévérence est formidable.
Une forme de révolte, une forme de quoi ?
Je pense que...
D'insolence ?
L'insurrection doit être au centre de la République. Je pense qu'on crée des lois uniquement parce qu'on doit être dans l'insurrection. Il faut que tout le monde comprenne qu'on doit avoir toutes les libertés. Moi, je suis pour vraiment toutes les libertés possibles, dans un cadre.
Dans un cadre.
Mais oui, c'est ça. Et donc, je suis le trubillon qui fait que le cadre doit exister. Aujourd'hui, je trouve ça d'ailleurs un peu dans le monde de la culture un peu bizarre parce que il n'y a plus besoin de cadre, en fait. C'est poli, c'est plutôt propre. Non, on doit être, nous, en tant qu'artistes, on doit regarder ce monde, prendre des risques pour dire vraiment que les choses sont graves. Voilà, il me semble, en tout cas. Ou belles.
Ou belle, alors deuxième volet de ce triptyque, les irrévérencieux, c'est pas facile à prononcer, c'est ce quatrième mur créé sur scène en 2016 que vous avez repris jusqu'au 17 juin à la Comédie Odéon de Lyon. On va y venir juste après une première page musicale que vous avez choisie pour nous et en premier lieu c'est San Lucas de Kevin Carl. Vous nous dites pourquoi ce titre et cet interprète ?
Ah, parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. Voilà, c'est une aventure à travers qui on est, et je pense que notre dernier spectacle, Le Village de l'Allemand, sur la mémoire de l'héritage, voilà, ça m'a beaucoup plu, puis j'aime bien l'espagnol.
Eh bien, on va écouter San Luca, quelques notes, et on se retrouve tout de suite après pour se plonger, ou plutôt se mettre derrière le quatrième mur.
Que vas con un loco que no te para de amar a vivir salvajes libres, libres allá en San Lucas. Tus ojos brillan más que la luna sol y mar. Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción, darle todo mi cariño y entregarle mi amor.
San Lucas par Kevin Carl. Alors, en même temps, vous rythmiez cette chanson, hein, Thierry Hauser. On a l'impression que vous êtes vraiment dedans, quoi.
Ah oui, j'adore. La musique, en fait, je suis un homme du rock'n'roll, je crois, plus que du théâtre.
Du théâtre. Bon, il est toujours temps d'y revenir. En tout cas, c'était votre choix, Thierry Hauser, directeur artistique de la compagnie des Asphodèles du Colibri, qu'on vous reçoit à l'occasion du quatrième mur à l'affiche en ce moment, la Comédie Odéon de Lyon, soit le récit d'un Paris ambitieux.
En arrivant ici, vous avez tous enlevé vos brassards. Je vous propose également d'oublier votre camp, votre nom, votre religion. Vous êtes des acteurs. Alors aujourd'hui, nous laissons la guerre à la porte du théâtre, d'accord ?
Voilà, mettre ces différents de côté le temps d'une représentation théâtrale. Eh bien, c'est le défi que va tenter de relever Georges, jeune metteur en scène un peu idéaliste dans le Liban de 1982, déchiré par la guerre civile. On peut peut-être, Thierry Hauser, rappeler l'origine de cette pièce. C'était le roman de Serge Chalandon, journaliste reporter. Il l'avait publié en 2013. Comment vous êtes tombé dessus?
Il a reçu le prix Goncourt des lycéens. Je trouve que chaque fois, ce prix Goncourt amène des lectures assez incroyables. Alors le prix, mais il n'y a pas que le prix, ils choisissent vraiment de très beaux romans. Et c'est un roman exceptionnel. Sorge est un écrivain fabuleux. C'est quelqu'un qui vit dans un monde à part. Et d'ailleurs, il a vécu des choses terribles en tant que journaliste. Il était à Libé à l'époque, Libération. Et il a perdu des camarades là-bas. Donc du coup, cette écriture, elle est d'une sincérité, d'une universalité exceptionnelle.
Revenons à cette histoire. Comment est-ce que Georges est amené à mettre en scène cette pièce? Parce que au départ, c'est pas son idée à lui.
Non. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de recontextualiser. C'est pour ça que nous, on a pris le parti pris de montrer ce côté universitaire de la France des années 80. La France des années 80, c'est ce pays qui connaît un peu le monde, qui a compris le monde même, hein, qui voudrait faire ressentir que. Et du coup, il a ce projet, il l'hérite
de Samuel Aconis, grec, voilà, qui est Samuel un universitaire,
qui lui a vécu
la dictature des colonels.
C'est ça,
en Grèce, ouais.
Le fameux film Z de Costa Gavras, voilà.
Et qui vient donc en France pour donner son témoignage, hein, quelques jours après l'implantation de cette dictature. Et c'est là qu'il va rencontrer Georges et ils vont devenir amis.
C'est ça, ils vont partager. Alors Georges, il voit à travers ce personnage qui a vécu des choses terribles, les luttes. D'ailleurs, à un moment donné, il lui dit, mais tu fais une erreur, tu parles des flics en parlant de SS, ce n'est pas du tout la même chose, les mots ont un sens. Et c'est toute la force de cette écriture. Et voilà, il hérite, donc il tombe malade à Kounis, et donc il propose à Georges d'aller pour faire ce projet. Et d'ailleurs, sa femme, quand elle lui dit, aller dans un terrain de guerre avec un nain clown, c'est aussi toute la force de ce roman et de cette idée, c'est de dire que voilà, le théâtre, c'est aussi l'utopie, c'est se dire qu'on peut essayer. Et ça, pour moi, ça a été un choc dans cette lecture aussi.
Alors Georges va donc quitter femme et sa jeune Louise, hein, qui est toute petite pour partir au Liban, et on va le suivre alors tout au long de cette pièce, pour monter ce spectacle, son arrivée dans un pays sous tension, les contrôles humiliants, les tirs de snipers, les accords à arracher aussi aux responsables des différentes factions religieuses et politiques, que ce soit chiites, sunnites, druzes, palestiniens, milices chrétiennes qui s'entre-déchirent. Et puis une fois enfin réunis sur scène, les difficultés à s'entendre.
Le Liban est un pays qui est en guerre. Pourquoi ne pas avoir choisi un texte qui parle de paix?
Eh bien parce que c'est une pièce.
Où personne ne tend la main à personne et tout le monde meurt.
Oui, c'est vrai, mais c'est une pièce qui parle de dignité.
Alors, la dignité de Créon ou d'Antigone?
Ce texte est un appel à la rébellion.
Alors, attendez, il y a beaucoup
d'écrits. Les d'amour aussi sont choisis.
Alors, bon, l'Antigone est dans les tragédies,
il y a des idées désertées par Dieu.
Et voilà, le ton monte très vite. Alors non seulement il faut accepter de jouer ensemble, hein, malgré ces différences de religion et de politique, mais aussi ne pas réinterpréter l'Antigone d'Anouilh en fonction de son appartenance politique ou religieuse. On peut quand même rappeler l'intrigue de cette pièce, qu'elle a été écrite en 41 par Jean Anouilh sous l'occupation allemande, hein, d'après la version originale de Sophocle. Antigone en quelques mots, vous nous rappelez l'intrigue?
Ouais, c'est un prétexte pour moi, cette histoire de d'Antigone. Alors c'est marrant parce que dans ce roman, souvent, on nous parle d'Antigone. L'idée, en fait, on le dit pas dans le spectacle d'ailleurs. L'idée, c'est de montrer que cette pièce terrible.
On peut peut-être rappeler quand même que pour ceux qui auraient séché les cours de français au lycée Antigone, c'est donc cette jeune femme qui va défier son père pour pouvoir enterrer son frère, je crois, hein, si vous me corrigez si je me trompe, et son père s'y oppose, et donc fatalement la jeune palestinienne qui va incarner donc Antigone dit voilà, c'est un rôle pour une palestinienne, hein, qui défie toutes les autres milices, hein, voilà, chacun se réapproprie un petit peu cette relecture. écriture.
Mais oui, parce que l'idée au départ qui est noble, c'est de dire, bah voilà, on monte une pièce pour on se propose 2 heures de paix pour une pièce de théâtre. Mais voilà, on doit tomber le brassard, on doit avoir ses masques, on doit jouer ensemble. Et c'est ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, quel que soit le territoire, quand Georges d'ailleurs a du mal à comprendre tout ça quand il arrive là-bas, il est humilié bien sûr, mais des fois il ne comprend même plus avec qui il parle. L'histoire du pardon, enfin le regard. En fait, c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, on entend l'actualité tout à l'heure. Voilà, on parle du monde, on sait pratiquement tout, mais en fait, on ne comprend pas grand-chose. C'est ça qui est inquiétant. C'est que quand Georges arrive là-bas, il croit avoir compris le monde, il découvre le monde, et ce monde, bah, il le prend vraiment
en pleine figure. Cette pièce, est-ce qu'elle va pouvoir être jouée finalement? Bien, on laissera l'auditeur, les auditrices le découvrir, parce que la fin est assez surprenante. Thierry Houzer, on va continuer de parler de cette pièce, de cette mise en forme aussi, qui associe là aussi des textes, mais avec des danses et de human beatbox. Mais le jeudi, on parle aussi nature, ce qui n'est pas très éloigné de votre compagnie qui a été baptisée initialement Asphodel. Alors, c'est le moment de dire ce que signifie ce mot Asphodel.
Alors, l'asphodel, c'est une fleur. C'est une fleur qui pousse sur des endroits très arides, des coteaux sauvages. Quand il pleut, ça pousse très, très vite. Et comme il fait très chaud, eh bien, ça fane très, très vite. Et c'est éphémère. Et pour moi, le spectacle vivant est éphémère. La grande différence avec beaucoup de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'art, c'est que chaque pièce est différente. Tous les soirs, vous venez voir cette pièce, elle est différente parce que la salle est différente, parce que le jeu des acteurs est différent, même si bien sûr, il y a une similitude de l'une à l'autre. Mais voilà, c'est chaque fois une première et une dernière. Pour moi, c'est important, ça, le côté éphémère du spectacle vivant.
Voilà pour l'explication. Alors, pas question d'Asphodel hein, dans notre rendez-vous jardin du jeudi, mais on va plutôt parler de bulbes et on va voir ça tout de suite avec Pascal Asp, il est responsable des jardins au Centre écologique Terre Vivante, c'est en Isère.
Ah, mon petit jardin préféré que j'aime tant!
J'ai besoin de refaire un potager.
La préparation du terrain est primordiale.
Tout doux, tout ce jardin.
Et bonjour Pascal! Pascal.
Bonjour.
Les asphodèles, vous connaissiez Pascal?
Ah oui, oui, alors ça me rappelle mes études dans le sud à Montpellier, où du coup on faisait des sorties botaniques avec cette asphodèle, cette grande plante un petit peu haute à la belle floraison blanche. Donc oui, ouais. Oui, oui, je me vois passer des heures à les mettre dans des herbiers.
Exactement. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'asphodèle, mais plutôt de bulbes. On sait que fin automne, on peut planter des bulbes pour préparer ses floraisons de printemps. Mais on peut aussi, en ce début d'été, bien planter des bulbes pour avoir des fleurs, mais cette fois-ci en automne. Pourquoi c'est le bon moment de les planter, ces bulbes?
Eh ben c'est le bon moment parce que ça y est, le sol est chaud, donc tout ce qu'on va mettre dans la terre, ça va démarrer assez vite. Parce qu'avec un peu de chance, alors il n'a pas plu partout en France, mais on va dire le printemps a été un peu humide à certains endroits et du coup les sols sont encore un petit peu humides avant l'été. Et du coup vraiment l'idée c'est voilà, les sols sont chauds, ils sont encore un peu humides, on va planter ces bulbes en terre pour qu'ils bénéficient de la chaleur du sol et de son humidité pour démarrer. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire et pas plus tard quand il fera trop sec.
Et quel type de fleurs ça peut concerner ces bulbes?
Alors là, on va dire qu'il y a peut-être un peu moins de choix que pour les bulbes qui fleurissent au printemps, mais ça va être les colchiques, vous savez, la fameuse chanson colchique dans les prés, fleurissent.
Ah, ben voilà, souvenir scolaire, oui.
En été, c'est ça, les colchiques, les crocus, le crocus dont on peut tirer le safran si on est un petit peu malin selon les crocus, les amaryllis jaunes, et puis un petit cyclamen qu'on appelle le cyclamen de Naples, voilà, grosso modo, c'est ces quatre-là qui vont amener une belle floraison d'automne.
Alors, on a nos bulbes, où est-ce qu'on les plante? Est-ce qu'il y a des endroits dans le jardin qui sont plus conseillés que d'autres?
Oui, à part exception, on va dire que on va plutôt préférer les endroits ensoleillés ou mi-ombre. Autant ben, sur les bulbes à floraison de printemps, certaines narcisses peuvent complètement aller être bien à l'ombre. Là, on est quand même sur des bulbes qui vont faire leur feuillage en été. Hein. Vous avez planté votre bulbe, il va faire son feuillage en été. Donc, on va préférer des ensoleillements plutôt aller à des situations ensoleillées ou mi-ombre, mais on évite à tout prix l'ombre.
On n'oublie pas évidemment de mettre des petits piquets pour savoir où on a mis ces bulbes dans le jardin, mais justement à quelle profondeur on les place ces bulbes?
Alors on va dire qu'il y a une règle assez simple qui dit que grosso modo un bulbe ça va se planter à deux fois sa taille de profondeur. Donc voilà, le bulbe est gros, je fais un peu plus profond, il est plus petit, je fais moins profond. Et bien sûr, vous l'avez dit, on n'oublie pas de mettre les piquets parce que ça va assez vite de se retrouver à piétiner, écraser ce bulbe qui va mettre quelques jours à démarrer et qui sera invisible pendant les premiers jours de sa vie.
Ah, je vois que ça fait beaucoup rire Thierry Hauser, hein. Vous avez été victime de bulbes que vous avez piétiné, non?
Non mais d'entendre parler ça c'est formidable, moi j'adore la nature, j'adore planter, je trouve les fleurs... Ouais. Légumes, et quand j'entends parler ça, je sens la terre.
Vous sentez la terre, mais ouais. C'est vrai que Pascal, il nous met tout de suite dans l'ambiance. Alors, une fois qu'on a planté nos bulbes à la bonne profondeur, est-ce qu'il faut bien arroser après la plantation ou pas du tout? On laisse le bulbe vivre sa petite vie de bulbe?
Alors généralement, on va dire qu'on lui laisse vivre sa petite vie de bulbe. Pourquoi ? Parce que le sol est suffisamment humide et qu'il y a les réserves dans le bulbe pour que le bulbe fasse ses premières racines et ses premières feuilles. Donc on va dire qu'il n'y a aucune raison de l'arroser, exception faite que, allez, on peut les planter partout, ces bulbes, en pleine terre, mais aussi dans les pots sur la terrasse ou dans les jardinières. Et on n'oublie pas quand même que les pots sur la terrasse ou les jardinières, des fois, c'est quand même pas mal sec, les substrats. Donc allez, si on les met en pleine terre, on les oublie un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait les feuilles. Si on les met dans les pots de la terrasse, peut-être qu'un petit coup d'eau de temps en temps à l'heure de l'apéro, c'est pas mal.
Voilà, donc on va... Et puis pourquoi pas mercer un peu d'apéro aussi dans les pots. On va voir donc ces tiges apparaître assez rapidement. Donc pas d'affolement, hein, c'est normal. Hein. Les fleurs, elles vont venir plus tard. Hein. On rassure celles et ceux qui nous écoutent. Oui.
Oui, pas d'affolement. Le bulbe va commencer à faire d'abord des racines sur les réserves du bulbe, qui sont des réserves, puis des feuilles. Et puis on s'affole pas. Au début, on a que des feuilles. Et on va dire, les fleurs vont apparaître à l'automne. Donc aucune raison de se stresser si ça ne fleurit pas cet été. On attend, on verra les belles floraisons à l'automne.
Voilà, on attend l'automne pour voir éclore nos colchiques si tout n'a pas cramé avec une nouvelle canicule. En tout cas, merci Pascal pour ces conseils bulbeux. Par contre, nous, on n'attendra pas l'automne pour vous retrouver la semaine prochaine. Et puis c'est là qu'on dit au revoir Vincent.
Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Effectivement, c'était bien Francis Cabrel qui reprenait ce tube immortel des cours de récréation. Thierry Hauser, vous avez la main verte apparemment.
Moi, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup les fleurs, je trouve ça fantastique.
Vous avez une fleur préférée d'ailleurs?
Une fleur préférée, non, c'est pas possible. J'aime trop les fleurs. Et ça me rappelle une anecdote à Avignon, pendant le festival, j'avais ramassé une branche de laurier rose sur un trottoir, je l'ai mis dans une bouteille d'eau. À la fin du festival, je l'ai ramené à Lyon, je l'ai planté, j'ai un arbre devant chez moi qui est magnifique.
Ah, c'est magnifique ça. Comme une petite pousse d'Avignon qui maintenant devient un arbre.
Ouais. C'est ça.
C'est très symbolique sur la création artistique aussi qui s'épanouit.
Mais je crois beaucoup à la petite graine. Moi.
Ouais, qui pousse. Thierry Hauser, directeur et non pas botaniste, directeur artistique de la compagnie Les Asphodèles du Colibri. Elle affiche en ce moment et jusqu'au 17 juin au Théâtre Comédie Odéon de Lyon pour le 4e mur adapté du livre de Sorge Chalandon. On va continuer d'en parler puis on ira aussi au cinéma pour faire le plein de waouh avec Valérie de Marnac. À tout de suite.
Tout doux, une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Belletti.
Et retour sur le plateau de Tout doux avec notre invité du jour, Thierry Hauser, directeur artistique de la compagnie Les Asphodèles du Colibri, pour évoquer Le Quatrième Mur, une adaptation au théâtre du livre de Sorge Chalandon, soit le récit d'une utopie montée, le Antigone de Jean Anouilh dans le Liban, déchiré par la guerre civile en 82, en réunissant sur scène des comédiens et des comédiennes de camps adverses.
Se parler. En récitant un texte qui n'est pas deux, c'est ça?
En travaillant ensemble, autour d'un projet commun.
C'est une forme de répit, alors?
Oui. Oui, le théâtre est un répit.
Un mot sur ce qui fait toute l'intensité de cette pièce, Thierry Hauser, à savoir sa mise en scène. Les comédiens, ils sont six, hein, et à part celui qui incarne Georges, le metteur en scène, ils interprètent chacun différents personnages dans un rythme soutenu, mais vraiment avec une fluidité, une économie de moyens qui est vraiment remarquable. On peut peut-être présenter rapidement cette troupe qui est vraiment au diapason.
Oui, alors c'est... C'est, chaque acteur a donc été formé, hein, d'une part à cette énergie de la comédia, mais en même temps à la danse hip-hop, et puis au big box. Ce qui n'est pas chose simple, parce qu'en fait, ils doivent à la fois interpréter ces différents personnages, mais en même temps, dans ce projet, toute la partie sonore du spectacle est faite par les artistes, avec leur bouche, en beatboxant. Et du coup, ça amène aussi un rythme. Ça nous a donné cette possibilité d'un rythme avec ce côté très minimaliste du décor, puisque en fait on a 6 cubes et 4 platines qui font entièrement le projet.
Et c'est vrai que c'est extraordinaire, parce qu'avec cette économie de moyens, il n'y a pas besoin d'un énorme budget, mais voilà, avec ces blocs, on s'imagine dans une scène d'amphithéâtre, on s'imagine sur une table d'opération dans un hôpital de campagne, on s'imagine aussi dans une pièce de théâtre à l'université. Enfin, c'est vrai qu'il y a toute une mise en scène qui est vraiment assez étonnante, hein, par cette économie de moyens. Cette mise en scène, on peut peut-être le citer,
oui,
hein,
c'est Luca Franceschi
qui vous accompagne depuis vos débuts, hein, qui l'a mis en scène. On y retrouve aussi de la danse, des chants, hein, on l'a entendu, de la beatbox qui s'intègre facilement au récit. À qui on doit la chorégraphie et la musique, hein?
Alors, il y a plusieurs. C'est Najib Gherfi qui avait commencé, et puis je crois qu'on a fini par signer...
Avec Nicolas Ticot pour la musique.
Non, mais pour la danse.
Fanny Riou et Rachid Amchaouaoui.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on a travaillé avec 3 personnes différentes, parce que chacun avait... vous savez, prendre un... travailler avec un comédien pour lui dire, voilà, tu vas travailler avec ton corps comme un danseur. Au départ, ça peut paraître facile, mais ça l'est pas, c'est pas si simple. Et chacun nous a apporté une certaine forme ou une vision de ce travail sur la danse hip-hop. Pour ses chorégraphies, l'avion qui décolle, enfin, etc. Puisqu'en fait, on fait avec le corps aussi, hein, dans ce spectacle, beaucoup.
C'est vrai que l'expression passe aussi par le corps. Alors, je cite les interprètes, hein, Samuel Camus, parce qu'ils sont vraiment formidables. Samuel Camus, Maltilte Dutreuil, Lisiane Clément, Yannick Louis Yao, Nicolas Moisy et Alexandra Nicolaïdis.
Voilà, donc... Et Bérangère a remplacé Mathilde aussi, hein, parce que Mathilde a eu un problème. Donc du coup, c'est Bérangère a fait sa première hier soir. C'est pas, personne n'a remarqué.
Moi, j'ai vu la pièce hier soir, j'ai pas remarqué qu'elle était toute.
Et ça, je dois vous le dire, c'est assez exceptionnel. Je le dis parce que, voilà, elle a travaillé, tout le monde a des agendas compliqués en ce moment. Les artistes, même si on a une compagnie, sont obligés d'aller, ailleurs. Et sur de beaux projets qui leur sont personnels, souvent. Bérangère a travaillé pendant 15 jours, 3 semaines. Avec des images, très peu de répétitions, et hier soir c'était exceptionnel de voir comment elle a pu tenir ce rôle qui est très important dans cette pièce, avec une énergie, une dynamique, une justesse formidable.
Un spectacle intense, hein. On en sort un peu essoré mais content, avec plein de réflexions aussi en tête sur le vivre ensemble, et je crois que Serge Chalandon a particulièrement apprécié cette adaptation, je ne me trompe pas.
Oui, c'était une surprise. Bon, d'abord on l'a contacté, il vient du rock, hein, Serge, s'il a travaillé avec Victor Bosch à l'époque dans un groupe, et on s'est retrouvé une fois sur scène ensemble. Enfin, moi, on faisait la première partie, on était un petit groupe à l'époque. Et Serge m'avait dit, écoute, je vais essayer de venir. Et puis, il avait eu un problème, il était attaqué en justice pour diffamation par un ministre. Et l'audience n'a pas eu lieu. Il a foncé Gare de Lyon, il a pris le TGV et il est venu à notre avant-première. Quand on m'a dit il y a Serge Chalandon à la gueule, je me suis dit, mais non, il n'est pas là. Et il est rentré comme un spectateur. Il voulait payer sa classe, il n'a pas voulu qu'on l'invite dans notre théâtre, puisqu'on avait un théâtre encore à l'époque. Et il est venu voir cette pièce, ça a été une pression énorme, parce que quand on lit ce roman et puis qu'on dit qu'on va l'adapter, c'est une chose. Quand on doit le réaliser, c'est tout autre chose. Et voilà, puis on savait pas, on sait jamais. Quand on a un projet comme ça,
c'est... Et je crois qu'il était enthousiasmé.
Et il est sorti avec une émotion incroyable. Il s'est mis à pleurer, il nous a embrassé et il nous a dit, voilà, vous avez fait vivre mes Antigones. Je savais pas que vous étiez avec moi là-bas. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont passées avec lui, ça a été fabuleux. C'est des rencontres uniques, en fait.
Alors, on a parlé de théâtre, mais le jeudi, Thierry Houzet, on s'intéresse aussi au cinéma. Et pour nous donner ses coups de cœur, notre critique maison, Valérie de Marnac, et aujourd'hui, tout comme en ayant vu votre pièce, on va pousser plein de waouh.
Attention, moteur !
Annonce !
Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Coupé !
Tout doux, Le film de la semaine.
Et bonjour Valérie.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors
bonjour.
Votre film de la semaine, c'est une comédie, celle de Bruno Podalides, et elle s'intitule « Waouh ».
Oui, c'est une comédie, comme toujours, avec ce réalisateur, hein, légère et intelligente. Et il est fidèle ici, hein, à son style unique. Hein, c'est un mélange d'humour, un brin caustique et de mélancolie. Alors, dans son film précédent, Les deux Alfred, il fustigeait avec beaucoup de drôlerie le monde des start-up. Vous savez, ces entreprises high-tech, soi-disant très cool, hein, mais qui en réalité sont totalement déshumanisantes. Et avec ce dixième long-métrage, il nous emmène dans le secteur de l'immobilier.
Alors, Waouh, c'est le nom de l'agence immobilière où travaillent les deux personnages principaux, à savoir Horacio et Catherine.
Qui sont formidablement joués par Bruno Podalides lui-même et par Karine Viard, deux agents immobiliers un peu usés par son métier pour l'un, plus motivés pour l'autre, mais en deuil de son compagnon. Alors, Waouh, c'est surtout le cri d'enthousiasme que doivent lancer leurs clients quand ils découvrent le bien qu'ils visitent.
Voilà.
Le client, quand il arrive ici, il doit faire waouh.
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 Sinon, c'est mort. L'avantage, c'est que on est tout près de la gare. Un premier palier avec du chêne, un gland.
Qu'est-ce que c'est beau!
Du chêne, un superbe gland. Il faut absolument connaître son produit.
Et là, c'est quelle exposition?
Avoir réponse à tout, est-ouest.
Là, on est nord.
Hein?
Apparemment, tout le monde n'est pas d'accord. Ils ont deux biens à vendre, si je comprends bien. Il y a une grande maison bourgeoise un peu défraîchie, puis un appartement moderne flambant neuf.
Oui, alors la première est habitée par un vieux couple qui est incarné par Sabine Azéma et Eddie Mitchell. Alors, on ne les avait pas vus ensemble depuis le film de Châtillaise, hein, Le bonheur est dans le pré. Et on les retrouve ici avec Bonheur, justement. Lui, en ours mal léché, qui compte bien dissuader tous les acheteurs potentiels, hein, puisqu'il n'a pas du tout envie de quitter sa maison. Et puis elle, qui est plus fantaisiste et détachée de tout matérialisme. Et ensuite, c'est toute une galerie de portraits qui défilent sous nos yeux à chaque visite. Hein. C'est donc une succession de sketchs qui sont tournés à tour loufoque, drôle, tendre et qui cache en réalité des sentiments bien plus profonds de solitude, de complexe social, de manque d'amour, parce que finalement toutes ces situations sont assez exacerbées dans cet acte très impliquant qui est l'achat ou la vente d'une maison. Et le cinéma de Podalides, c'est ça, c'est vraiment le théâtre de la comédie humaine où derrière un humour bienveillant se cache une étude de mœurs beaucoup plus cruelle.
Bruno Podalides, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi le digne héritier du cinéma burlesque, un peu à la Jacques Tati?
Exactement, on pense à Playtime, hein, dans sa façon de se moquer de la modernité, vide de sens, quasi tragicomique, avec tout un travail sur les bruitages. À un moment, il fait une démonstration de volée entièrement automatisée et sa cliente, qui elle cherche un petit logement pour sa mère très âgée, craint plutôt qu'elle confonde la télécommande avec celle de la télévision. Alors il joue comme ça beaucoup sur les contrastes, les décalages, les symétries, et puis il brocarde aussi tout cet univers professionnel et son vocabulaire un peu abscon de terrain piscinable ou de dressing pour un vulgaire placard plus proche du placard à balai. Voilà, donc le film a été tourné en 4 semaines sur la base d'un scénario écrit dans l'urgence, dixit l'auteur-réalisateur. Ça peut paraître un peu léger, voire anecdotique, mais c'est vraiment un film qui nous rejoint de manière assez intime et qui laisse l'espérance émerger au cœur de toutes ces failles des personnages.
Le film Waouh, eh bien, il sort aujourd'hui sur les écrans de vos cinémas avec une pléiade d'acteurs et d'actrices. On peut citer Karine Viard, Sabine Azéma, Eddie Mitchell, mais aussi Agnès Jaoui, Denis Podalides, Manu Payette et Rochdi Zem. Et vous, Valérie, on vous retrouvera la semaine prochaine en direct du Festival du film d'animation d'Annecy pour découvrir toute la variété actuelle de cet autre genre cinématographique qu'on appelait avant le dessin animé. De quoi pousser d'autres Waouh.
Waouh.
Waouh. Waouh.
Doudou. Avec Vincent Belletti.
Waouh, c'est le genre de film qui pourrait vous plaire, Thierry Hauser. Là, je vous voyais beaucoup sourire pendant cette critique.
Oui, je trouve ça intéressant. En plus, le sujet est sensible, l'immobilier. Enfin, je veux dire, on est dans un monde...
L'achat d'une maison, c'est jamais anodin. Hein. Il y a tout un enjeu affectif derrière.
Oui, puis ce que je trouve assez incroyable, c'est ces histoires de prix de l'immobilier, où en fait, certaines personnes sont obligées de quitter des fois leur territoire parce que d'un coup, c'est devenu à la mode. Et puis, voilà,
ouais, ils deviennent... Et puis, on n'a plus assez de capacité financière pour rester sur place.
Hein. Ça me paraît totalement incroyable.
Vous-même, vous avez déjà fait du cinéma, notamment dans un film d'Éric Guirado qui est sorti en 2001 et qui s'intitulait « Quand tu descendras du ciel ».
Monsieur voudrait savoir si on peut lui prêter une télécommande le soir.
Bon, parce que c'est que quand vous laissez les télés allumées jusqu'à minuit, je me disais que je puisse au moins choisir les programmes. C'est-à-dire que, bon, déjà que j'ai pas le son. Mais si possible, la télécommande de la grande, là.
Voilà, un SDF qui demande à avoir la télécommande dans un magasin d'électroménager pour pouvoir regarder le programme qui lui plaît. Alors ça peut faire sourire, mais le propos était plutôt grave dans ce film.
Oui, c'est un Éric Guirado avait fait un court-métrage tout d'abord, et puis ensuite il en a fait un long. Il avait eu le prix au Festival de Cannes d'ailleurs. Et oui, c'était dramatique. C'était quand Jacques Médecin, candidatait à la mairie de Nice, avait dit voilà, si je suis élu maire de Nice, je viderai Nice de tous ces clochards, de ces personnes qui sont là sur les trottoirs. Et il l'a fait. Ça paraît totalement fou, mais voilà, même si c'est une histoire un peu ancienne, Jacques Médecin, je pense qu'on n'est encore pas loin de vivre ça aujourd'hui. Bah,
notamment pour les Jeux Olympiques de 2024, hein, où on nous propose le grand ménage aussi.
C'est ça, oui, c'est inquiétant.
Thierry Hauser, dans quelques instants, s'intéressera à votre autre casquette, celle de président directeur de la Caravane des 10 mots, une initiative que vous avez lancée à Lyon. On verra pourquoi et dans quel contexte. Ce sera juste après une deuxième page musicale. Et après Kevin Carl, eh bien, c'est une des reines du rock qui nous a quittés récemment, que vous nous proposez, à savoir Tina Turner. The Best, c'est le titre choisi. Qu'est-ce qui vous lie autant à Tina Turner?
Ah, je l'ai vue sur scène, c'est incroyable, c'est des artistes...
Cette crinière
qui... Non, c'est pas seulement la crinière, c'est une énergie, c'est quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie, mais qui a toujours gardé justement Alors je parle souvent de ça, c'est curieux, une foi intérieure, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont cette flamme, et quand elle est sur scène, elle donne tout, mais elle donne tout avec une interprétation, avec une force inouïe, C'est fabuleux de voir un artiste comme ça sur scène.
Eh bien, on va réentendre Tina Turner de Best et on se retrouve tout de suite après pour partir avec cette caravane des mots. Lifetime promises and a world of dreams. The Best, la meilleure, c'était Tina Turner. Le best choix de Thierry Hauser, directeur artistique de la compagnie des Asphodèles du Colibri, qu'on invite et qu'on reçoit aujourd'hui avec cette création, le quatrième mur, à l'affiche en ce moment au Théâtre Comédie Odéon de Lyon. Alors Thierry Hauser, vous avez aussi une autre fonction, et ça passe par les mots.
Canular, nuage, émoticône, hébergé, télésnobé, pirate.
Voilà, extrait d'un reportage réalisé en 2016. C'était à l'occasion du 6e forum international des caravanes francophones qui s'était tenu à Madagascar et auquel vous avez participé, quitte même à danser dans la rue. Hein. Ne niez pas, tirez aux heures, on a les images. Vous dansez très bien. Caravane des 10 mots, c'est vous qui l'avez lancé en 2003 à Lyon. Alors, de quoi il s'agissait et puis dans quel cadre ça s'inscrivait, cette caravane?
C'est un accident de parcours encore. C'est une rencontre entre cette idée de la langue, ces mots que j'ai toujours aimé, puisque j'ai aimé écrire des chansons, j'ai aimé beau lire, le théâtre. Et puis, la semaine de la langue française et de la francophonie, on me propose à une époque de créer une manifestation avec l'espace Pandora et Michel Knobulaire de la DRAC. Et on a appelé ça « Les 10 mots font la fête ». Et derrière, je me suis posé la question, je me suis dit « Mais enfin, où sont tous nos concitoyens autour de ce partage de la langue française ?» Et on m'a dit « je ne sais pas ». Donc j'ai mis 2 mois pour écrire une phrase qui dit « Aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui ». Pour moi, il est essentiel de laisser toute personne, quand il apprend une langue, il la fait sienne, donc il la partage et il l'enrichit parce qu'il est lui-même, par son parcours, par son lieu de naissance, son parcours social, familial, intellectuel. Souvent, les moments de la vie, d'ailleurs, on n'a pas le même sens derrière les mots, même si on les connaît, on les imbrique. Et c'est ce qui est la force, par exemple, dans certains écrivains, quand on est au théâtre, on titille les mots comme ça, voilà. Mais dans la vie courante, il y a des gens qui sont dans une prison à ciel ouvert, qui ne s'expriment pas, qui sont dans le monde du silence. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas la parole. Il y a cette grande langue que je respecte, bien sûr. On parle souvent, quand on parle de la langue, on pense souvent de l'Académie française, etc. Mais c'est pas grand-chose dans cette histoire de la langue. Même si j'ai profond respect, moi j'y suis allé et c'est extraordinaire. Mais où est-ce que le monde de tous les jours, c'est-à-dire ces langues qu'on entend partout, à la maison, dans les transports en commun, quand on est avec ses enfants, c'est différent, cette diversité linguistique qui fait notre quotidien à tous, notre unité à tous. Voilà, c'est ça. Et le projet est parti de là, tout simplement en 2003. Et il a fait un peu le tour du monde, c'est ça qui est incroyable.
Avec 10 mots à chaque fois, donc, représentés. Alors, partant de là, vous avez initié la Biennale des langues. La première édition s'est tenue en mai 2022 à Lyon. Là aussi, c'était quoi l'enjeu de cette Biennale?
C'est cette chance que j'ai eue de parcourir le monde et de rencontrer des cultures et des gens incroyables, justement, me parler dans leur langue et de comprendre que dans certaines langues, des choses se disaient, que dans ma propre langue, c'était intraduisible. Il a marché sur ma langue. Il y a tellement de mots pour dire, voilà, il vient de dire ce que je voulais dire. Enfin, voilà, il y a en espagnol, enfin, il y a dans toutes ces langues du monde, chaque langue est une... Je veux dire, chaque langue qui part, c'est un bout d'humanité qui s'en va. C'est une façon d'interpréter le monde, ce qui nous entoure. Et il n'y a pas de langue supérieure à une autre. J'en suis convaincu, moi, vraiment, de cela. Et je me suis dit, mais comment faire partager cette richesse que j'ai eue dans ma vie, moi? Alors, j'ai imaginé plein de choses. Et puis, un jour, par accident, je présentais cette idée que j'avais à la directrice de l'Institut Cervantes, qui est pas très loin d'ici, d'ailleurs. Et elle me dit, mais vous allez appeler ça comment? Je dis, la Biennale des langues. Je me suis dit, j'ai vu des biennales de tout un tas de choses, d'art contemporain, etc. Il n'y a rien sur les langues. La chose qu'on utilise tous les jours, quel que soit le langage des signes, toutes les langues. Et voilà, ça s'appelle la Biennale des langues. Alors, ça a été compliqué de la monter. On a eu la Covid, enfin, il y a eu plein de choses. Mais on a fait la première édition l'année dernière dans la cour Berthelot. Ça, c'est Stéphane Hessel, puisqu'il m'avait dit résister, c'est exister.
La cour Berthelot, voilà, au lieu de la résistance, c'est là où Klaus Barbie torturait les résistants et les juifs.
Et je trouvais que c'était un beau symbole de faire ça dans cette cour. Et donc, on remet le couvert l'année prochaine, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, en mai 2024. Et là, on va essayer. On avait parlé 89 langues, je crois, dans la première biennale. J'espère qu'on en parlera beaucoup plus dans la seconde, et j'appelle tous nos concitoyens, tous ceux qui sont sur nos territoires, quels qu'ils soient, c'est pas le problème, venir nous parler leur langue et pourquoi pas nous donner des cours de 5 minutes dans leur langue.
Oui, parce que c'est ça qui était intéressant, il n'y avait pas que des conférences hein, sur la langue, mais il y avait aussi des ateliers, il y avait des jeux et des projections de cinéma lors de la biennale. Hein. 3600 visiteurs, j'ai vu 1500 spectateurs hein, qui ont assisté à cette première édition.
Alors j'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde, on fait 6 jours l'année prochaine, on avait fait 4, on en fait 6, il y aura une journée un peu plus formation avec des thématiques. Hein. Mmh. Et vraiment, c'est une manifestation qui se veut populaire dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que chaque personne peut venir. Évidemment, il y aura des monstres sacrés de la linguistique sur certains sujets. Mmh. Mais je le redis, chaque citoyen peut venir nous dire, bah voilà, moi, je voudrais vous apprendre pendant 5 minutes le lingala. Mmh. Allons-y.
Vous qui avez lancé cette caravane des mots, je ne peux pas m'empêcher de vous demander quel est le mot que vous préférez dans la langue française ? Utopie, en référence au quatrième mur.
Oui. Ben parce que l'utopie, pour moi, c'est vraiment ce qui n'a encore jamais été réalisé. C'est pas ce qui est irréalisable. Je crois qu'on peut y arriver. Même si, bien sûr, je suis effondré quand je vois l'actualité et l'incompréhension du monde à comprendre qu'on va dans le mur. Mais je reste idéaliste. J'aime l'amour, j'aime l'humain, moi, vraiment. J'ai un amour fort pour l'humain. Et est-ce qu'il est en capacité de sa curiosité ? Je trouve que le monde n'est pas assez curieux. Soyons curieux du quotidien, voilà, des toutes petites choses. Ça, c'est pour moi très, très important.
Eh bien, rendez-vous pour en parler lors de la prochaine biennale, donc en 2024. On se retrouve dans quelques instants pour terminer déjà cette émission.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, applaudissements nourris pour la représentation d'hier soir de ce quatrième mur. Je ne sais pas si vous assistez à toutes les représentations, Thierry Hauser.
Oui, je suis là tous les soirs.
Ouais, pour voir si tout le monde sait bien son texte.
Mais c'est parce que, c'est aussi un plaisir. Hein. Ouais. Et puis là, on part bientôt au Festival d'Avignon. Où on présentera donc le quatrième mur à Présence Pasteur. Et puis notre dernière création, Le Village de l'Allemand. L'adaptation du roman de Boalem Sansal. Alors là, c'est un gros morceau et ça sera au Théâtre des Carmes.
Le quatrième mur, c'est jusqu'au 17 juin, du mercredi au samedi à 20h30. Une création vraiment intense. Intense, c'est le mot, hein, je crois, qui qualifie vraiment cette création, avec une très belle réflexion sur ce fameux vivre ensemble et qui ne concerne pas que le Liban d'hier, hein, avec tout le repli sur les communautés qu'on connaît aujourd'hui. C'est toujours très actuel, hein,
mais c'est incroyable parce que quand on a travaillé sur ce spectacle, on a fait venir un spécialiste du Liban pour nous parler de ces communautés, pour bien comprendre de quoi on allait parler. Jamais j'aurais imaginé que 6 ans après, on serait dans un Liban comme on le voit aujourd'hui. C'est en faillite complètement. C'est dingue ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui. Mmh. Voilà, c'est de pire en pire.
C'est de pire en pire. En tout cas, merci Thierry Hauser pour avoir participé à cette émission. Je rappelle encore une fois donc le quatrième mur au théâtre Comédie Odéon de Lyon. C'est jusqu'au 17 juin et toutes les informations à retrouver sur comédieodéon.com. Comédie Odéon, tout attaché. Merci aussi à Pascal Gauthier derrière son mur vitré de la régie technique. Merci Pascal. On va se quitter en chanson avec votre dernier choix, Thierry Hauser. C'est Alain Bachung pour Osez Joséphine. Pourquoi Bachung ?
Ah, c'était un artiste fabuleux.
Oui.
Vraiment.
Qui lui aussi aimait bien manier les mots. Hein.
Extraordinaire. Oui. Extraordinaire.
Un mélange des mots que je vous propose de revivre. Cette émission, elle est à réécouter en podcast sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Je vous souhaite un très bon début de soirée à l'écoute de ces deux stations et on se quitte avec Bachung.
et les BH. Jamais souffrir, juste faire émir les chevaux du plaisir. Osez, ose Joséphine. Osez, ose Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez le soulier, usez l'usurier, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, ose Joséphine.